France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagné à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Philippe Duclos à la console. Pourquoi vous le cachez? Il y a des raisons précises qui nous ont amenés à rediffuser une heure philo. Je vous en donne le thème dans un instant, mais auparavant, je voudrais vous dire qu'initialement, nous avions donc prévu d'inviter le grand philosophe Alain Badiou. Nous nous faisions une joie de le recevoir et je crois bien que lui aussi était heureux de venir, mais nous y arriverons, ce sera pour une autre fois. Laissons passer cette fin d'année, je suis sûre que nous le retrouverons au mois de janvier. Un mot encore à son sujet, il publie un livre passionnant consacré au concept de nature. Ça vous met l'eau à la bouche. Alors pas l'environnement, pas les aléas politiques, mais le destin philosophique de la nature. J'arrête là avec cette méditation. Alain Badiou fera le reste lorsqu'il viendra. Il ne vous aura pas échappé que le 21 décembre à 15h03 GMT, c'est précis, ce sera le solstice d'hiver 2025. Autrement dit, le jour de l'année où la durée du jour est la plus courte, en tout cas dans l'hémisphère nord évidemment. Et si ce jour est le plus court, c'est que cette nuit est la plus longue, vous me suivez? Quoi de mieux pour s'intéresser à la nuit que nos deux invités, Michael Fossel et Luc Diadinski, émission déjà diffusée le 29 août dernier.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Michael Fossel et Luc Diadinski sont nos invités. La nuit s'est inscrite au programme, mais pas encore au programme philo, je crois pas. En tout cas, vous allez peut-être dire le contraire. Mais non. Elle peut être noire et blanche à la fois, ça c'est pour les cruciverbistes. Pour Victor Hugo, la nuit c'est le ciel d'étain au ciel de cuivre et les arbres qui se parlent tout bas.
Le ciel d'étain au ciel de cuivre succède, la nuit fait un pas. Les choses de l'ombre vont vivre, les arbres se parlent tout bas. Le vent soufflant des empyrées fait frissonner dans l'onde, où luit le drap d'or des claires soirées, les sombres moires de la nuit. Puis la nuit fait un pas encore, tout à l'heure tout écouté, maintenant nul bruit n'ose éclore, tout s'enfuit, se cache et se tait. Tout ce qui vit, existe ou pense, regarde avec anxiété et s'avancer ce sombre silence. Dans cette sombre immensité, c'est l'heure où toute créature sent distinctement dans les cieux, dans la grande étendue obscure, le grand être mystérieux.
Toute la lyre, poème de Victor Hugo. Michael Fossel, vous êtes philosophe. Je ne crois pas que la nuit fasse partie intégrante des
du programme du baccalauréat. Non, pas encore.
Vous êtes professeur à l'École Polytechnique. Vous publiez aux éditions Autrement un essai consacré à la nuit. Alors nous sommes tous plus ou moins des passagers clandestins de la nuit. Personne pour nous regarder, personne pour nous juger la nuit. Vivre la nuit, est-ce vivre sans témoin?
C'est vivre en tout cas en l'absence du regard que porte le jour sur nous. Et dans le poème qu'on vient d'entendre de Victor Hugo, à un moment il dit « les choses de l'ombre se mettent à vivre ». Autrement dit, la nuit c'est aussi ce temps, et cet espace d'ailleurs, où ce qui le jour reste dans l'ombre, où ce qui n'est pas pris dans la lumière, et ça peut être aussi des êtres humains évidemment, ont la possibilité d'émerger. Je crois que l'une des choses que l'on dit, l'une des choses les plus fausses à propos de la nuit, c'est de dire non seulement que rien ne s'y passe, mais que rien ne s'y voit. En réalité, ce qui peut s'y voir ou ce qui peut s'y sentir est alternatif à ce que l'on voit le jour. Il y a dans la nuit des perceptions, il y a des manières d'exister qui... Alors, vivre sans témoin, ici en l'espèce, cela veut dire évidemment pas vivre seul, forcément la solitude et la nuit sont des thèmes qu'on peut associer, mais c'est pas systématique, mais vivre en tous les cas avec un autre type de regard. Je dirais que dans la nuit, comme on est moins regardant, on est moins regardé aussi. Pour la simple raison que ce qui caractérise la nuit, d'abord, en tous les cas, c'est un affaiblissement de la lumière et donc, au fond, une acclimatation du regard à la pénombre. Je ne dirais pas qu'on y voit moins, on y voit aussi autrement.
Alors ça, c'est un tableau idyllique de la nuit. Il y a aussi les mauvaises nuits, vous Absolument. Vous y intéressez, hein, celles dont on dit qu'elles sonnent l'heure du vice et du crime. Pas vu, pas pris, c'est un
oui,
peu
bien
ça
sûr,
aussi.
La nuit est l'occasion aussi du secret, et par conséquent aussi de tout ce qui négativement tourne autour, de la possibilité de ne pas être au fond pris sur le fait, en quelque sorte. Alors, évidemment, cet aspect justifie, explique que la nuit, pour quantité de personnes, constitue l'espace de l'angoisse par excellence, celui où on ne veut pas s'introduire, et qui est d'ailleurs justifié aussi que l'on ait peuplé nos nuits de lumière artificielle, et parfois, ce qui est peut-être moins romantique, je dirais, de caméras de vidéosurveillance. La nuit est un espace angoissé duquel on peut tout de même essayer de voir, ou dans lequel on peut essayer de voir la possibilité d'alterner nos expériences pour les rendre plus innocentes. Et un mot simplement encore là-dessus, la nuit, vous évoquez la dangerosité de la nuit, mais la nuit est traditionnellement aussi un espace, ou un temps plus exactement, dans lequel, ça renvoie un peu à cette idée de vivre sans témoin, la justice, au sens policier, j'allais dire quasiment du terme.
C'est un point aveugle de la justice.
C'est un point aveugle. Dans le droit romain, les témoins qui témoignaient la nuit ne pouvaient pas, n'étaient pas recevables par le juge. Alors évidemment, à une époque où la nuit n'était pas peuplée de lumière artificielle, et par conséquent, il y a comme un espace, bien sûr, qui du coup crée un danger, parfois de la violence, c'est évident, mais aussi un espace où le jugement, en quelque sorte, est un petit peu neutralisé.
En tout cas, suspendu.
Suspendu.
Luc Gazinski, vous êtes géographe, vous êtes spécialiste des night studies, j'ai appris que ça existait, sont des études sur la nuit. À première vue, moi, ça m'a étonné qu'un géographe s'intéresse à la nuit. Et en fait, vous dites que c'est une recherche interdisciplinaire.
Oui, d'abord, merci d'inviter un géographe à travers moi, toute ma discipline. Mais oui, un géographe peut s'intéresser à la nuit. D'abord, quand on est géographe, on est né avec 2 siècles de retard, en gros, hein. Parce que des terra incognita, il y en a très peu. Donc, moi, j'ai eu la chance de découvrir que...
C'était le Far West à l'époque où vous y êtes intéressé.
C'était pas le Far West, mais en tout cas, il y avait une espèce de front pionnier, une espèce de colonisation de la nuit, un début en tout cas, ou une accélération par les activités du jour.
Donc, c'est moi, quoi, les années 90 à peu près?
C'est le milieu des années 90, ouais, c'est à ce moment-là. Moi, j'essaie de regarder comment les individus traversaient les villes la nuit, et je me suis rendu compte qu'en fait, qu'un parc attractif en journée devenait... répulsif la nuit. Donc mon petit modèle, je l'ai transformé, je me suis intéressé à la ville 24 heures sur 24, et après je suis allé regarder du côté de ce temps spécifique de la nuit, et je me suis rendu compte qu'il y avait finalement assez peu de choses, assez peu d'études, assez peu de travaux, quelques travaux d'ethnologues, évidemment beaucoup de littérature, mais pas...
Parce que ça concerne aussi évidemment l'architecture, l'urbanisme, enfin ça concerne plein de disciplines.
Oui, les deux questions que j'ai essayé de travailler au départ, c'est les deux qui nous viennent quand on réfléchit à la nuit. Globalement, c'est quand même la nuit, je suis libre, et la nuit, j'ai peur. Il y en a d'autres, bien sûr, mais j'ai essayé de montrer à partir de quelque chose d'assez lourd, hein, géographie quantitative, où, quoi, qui, à quelle heure, comment, est-ce qu'on est libre et est-ce que c'est dangereux. Et ce que j'ai montré à travers ma thèse à l'époque, c'est que effectivement, la nuit, elle n'était pas plus dangereuse que le jour, et on n'était pas plus libre la nuit que le jour. Parce que physionomiste, et je sais que mon collègue philosophe a travaillé aussi sur cette question, parce que la lumière à certains endroits simplement dans la ville, parce que l'espace imposé du tourisme et des médias qui nous dit où aller, et parce que aussi l'espace aussi des médias et toute cette information sur les endroits où ne pas aller, notamment la nuit, à un moment où on est en insécurité, parce que plus de 80% de notre perception vient de,
évidemment,
vient de la
vue,
et qui nous manque, donc on est obligé de se réfugier sur le reste.
Alors le hasard a fait que vous êtes connu en Inde à un colloque sur la nuit, des nuits magiques, des nuits
qui s'appelait à l'époque d'ailleurs des nuits de la philosophie, je crois me souvenir, ou la nuit des idées, c'est-à-dire qu'effectivement là on a pu se rencontrer avec Luc et échanger, je dirais, in situ, hein, pendant ces nuits, un peu sur notre objet qu'on interroge de manière différente, mais en trouvant évidemment des points communs. La nuit, effectivement, c'est un espace alors où la liberté n'est plus peut-être à la hauteur de ce que la nuit promet, en particulier, c'est la figure qu'a évoqué Luc tout à l'heure, parce que nos nuits contemporaines, nos nuits citadines, sont sont peuplées aussi par des dispositifs fondés, d'ailleurs, pour une part de manière légitime, sur le désir de sécurité. Mais la figure qui me paraît peut-être la plus contradictoire avec la nuit, c'est la figure, vous l'avez évoqué, du physionomiste, c'est-à-dire...
Celui qui est à l'entrée des boîtes de
qui
nuit.
Qui est à l'entrée des boîtes de nuit, des bars.
La tête que vous avez.
Ouais. Et qui est un physionomiste, c'est-à-dire quelqu'un qui sait voir à un moment, ou qui prétend savoir voir, à un moment où, précisément, on voit moins bien. Mais simplement, le regard qu'il porte, c'est un regard, évidemment, du jour. C'est-à-dire, c'est un regard qui porte sur des critères, parfois raciaux d'ailleurs, des critères de type ethnique, de type aussi économique, pour savoir si j'ai le droit ou pas de rentrer la nuit. Or, la nuit, précisément, peut-être que c'est une vision tout à fait idéaliste, mais la nuit, ça devrait, ou ça a un intérêt, je dirais, quelles que soient les activités auxquelles on vit, eh bien, c'est de neutraliser ces critères du jour. Au fond, vivre la nuit comme on vit le jour, et ça renvoie à des choses qui dépassent la question du physionomisme, c'est-à-dire, au fond, être aussi productif que le jour, être aussi dans la concurrence que le jour, vivre dans un système, et la géographie y a beaucoup réfléchi, où, au fond, le jour ne s'arrête jamais, hein, c'est le capitalisme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec ses néons, avec sa nécessité de consommer, avec des écrans allumés, c'est aussi perdre la nuit d'une certaine manière.
Mmh. Vous êtes des noctambules, tous les deux, je vous pose une question très personnelle, mais... Vous aimez vivre la nuit ?
Oui, noctambule. Mais noctambule, ça ne veut pas dire forcément quelqu'un qui passe ses vies ou sa vie dehors. C'est quelqu'un qui habite la nuit. Alors, soit d'ailleurs par nécessité, travailleur de nuit, soit par goût, soit aussi d'ailleurs pour des... Il y a des figures évidemment beaucoup plus tragiques du noctambule, l'insomniaque, c'est-à-dire quelqu'un qui subit le sommeil.
Puis il y a ceux qui bossent la nuit, qui n'ont pas le choix.
Les travailleurs de nuit, absolument. Alors moi, j'ai la chance de travailler la nuit par choix, c'est-à-dire, j'écris plutôt la nuit, mais évidemment, cela n'a rien de comparable avec quelqu'un qui est astreint avec cette idée d'ailleurs intéressante, qu'en principe, je pense que Luc le dira ou pas, le droit contemporain s'étant beaucoup adapté au néolibéralisme. Mais en principe, travailler la nuit, cela implique d'être mieux payé, parce que quand même on part du principe que l'être humain, c'est un effort, c'est quelque chose de non naturel pour lui que de devoir veiller quand les autres dorment.
Il y a une fraternité des gens de la nuit, on peut parler d'élus de la nuit, Luc Gazinski.
Je suis pas sûr qu'il y ait une fraternité.
Non.
Je suis pas sûr. Comme je suis pas sûr qu'il y ait une liberté, on l'a dit. Je suis pas sûr qu'il y ait une véritable fraternité. On a tous rêvé de ces fraternités nocturnes, de ces réinventions du monde la nuit. D'abord, ces réinventions du monde la nuit en fraternité, elles résistent assez peu, assez mal, disons, à la lumière du jour. Mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des fraternités. Pour répondre à votre question sur est-ce que je suis noctambule. Pardon, je pense que je suis plutôt un nocturne. La question du travail de nuit, mon exploration, elle est nocturne. Mon travail de géographe, c'est d'arpenter la ville, de l'éprouver.
Belle excuse.
Oui, belle excuse.
Vous aimez ça ? Vous aimez
ça ? Bien sûr. Non, d'abord, j'aime ça. Et puis, d'autre part, la nuit, pour moi, je suis originaire de la Lorraine, du nord-est de la France, et je viens de famille où on travaillait dans la boulangerie et dans la sidérurgie. Donc il y avait Vulcain, il y avait la fabrique du pain, et il y avait quelque chose de très important, de très mystérieux et de très vécu pour ces populations-là à l'époque.
Alain Bachung sur France Inter.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station Bellière, tu t'es pas fait briller. J'étais gant de crin, Joseph. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées,
je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Presseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. Voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
Alain Bashung, un noctambule inclassable. On est tous scotchés hein, en écoutant cette chanson. Michael Fossel, vous en parlez d'ailleurs dans votre essai.
Oui, à mes yeux, c'est la plus belle chanson sur la nuit parce qu'elle vient, je dirais, de ses profondeurs elles-mêmes. Hein, et même si on se contente de commenter le titre, hein, la nuit, je mens. Mais précisément, je crois que la fraternité qui précède, avec la violence qu'elle peut parfois constituer, les trahisons qu'elle constitue, la nuit, je mens, cette fraternité mérite d'être préservée, entretenue, en dépit du moment où le coq se lève et où le jour reprend ses droits.
Plus rien ne s'oppose à la nuit, hein, le Gazinski. C'est ce qu'il chante.
Oui, mais plus rien ne s'oppose à la nuit au sens... c'est une autre parole d'une autre chanson de Bashung. Cette parole-là, pour moi, je l'ai reprise un jour, mais pour dire qu'aujourd'hui, il y avait nécessité de s'intéresser à la nuit. Nécessité de s'intéresser à cette approche sensible du monde, à cette approche où on est en fragilité, finalement, comme animaux diurnes. C'était cette idée-là, et l'idée aussi de s'intéresser d'une certaine façon à la nuit, à un moment où le jour devient inhabitable, parce que la question qui est posée à la fois en philosophie et en géographie, vous nous demandiez les liens, c'est celle de l'habiter, d'une certaine façon, habiter la terre, habiter les villes, et elle est au cœur de la réflexion qu'on a.
Penser la nuit, c'est penser le jour, c'est penser les 24 heures, en fait.
C'est ce qui oblige, penser la nuit oblige à regarder les 24 heures pour savoir quand est-ce qu'elle commence, et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, si on prend la nuit comme le moment où le soleil bascule sous l'horizon, ou le moment de l'obscurité, le temps du repos social, la nuit dans les grandes métropoles comme temps du repos social, évidemment, c'est pluriel, c'est plus complexe que ça, mais elle est de plus en plus réduite.
Avec Internet et les réseaux, ça ne s'arrange pas non plus. Hein.
Non, justement, la nuit, elle est symbolique du conflit qu'il y a entre le temps en continu de l'économie et des réseaux, et puis le temps de notre corps, le temps aussi de notre société, le temps de nos villes. Et là, on a des conflits qui émergent de plus en plus. N'oublions pas, on a parlé du travail de nuit. Intéressant, il est mieux payé généralement que le travail de jour. Sauf qu'il y a des études récentes qui montrent que travailler la la nuit, c'est 5 ans d'espérance de vie.
C'est dommage pour la santé.
En moins, et toute une kyrielle de maladies qui sont celles des personnes qui travaillent de nuit. Donc quand on brandit cette question de travail de nuit, qu'on le met en avant, avec des jeunes, on se pose peut-être un peu moins la question d'un travail de nuit subi quand on a 50 ou plus.
Il est vrai que le travail de nuit est certainement méconnu, que d'ailleurs, d'une certaine manière, il est la condition du jour. Hein. On pense à tous les métiers qui ont lieu au tout petit matin, hein, en particulier de rangement, les femmes de ménage, etc., qui viennent préparer...
Les ramasseurs de bouteilles.
Les ramasseurs de bouteilles, absolument.
À Berlin
par exemple, puisqu'il y a encore un système là-bas de consignes. Et de fait, les travailleurs de nuit sont un peu, je dirais invisibilisés par le simple fait que la plupart des gens ne les voient pas, puisque au fond, leur travail est déjà accompli lorsqu'ils se lèvent. Et ça renvoie à un fait profond, ça, enfin linguistique en tout cas. Vous avez remarqué que l'on dit un jour pour dire à la fois le jour, c'est-à-dire la partie du jour qui est illuminée par le soleil, mais un jour, c'est aussi les 24 heures du temps. Autrement dit, on est dans le même rapport jour-nuit que dans le mot homme-femme. Homme dit à la fois tout et la partie, hein, et le jour dit à la fois le tout et la partie. Autrement dit, la nuit, c'est un peu, si je puis dire, elle est plus féminine, je dirais, la nuit au sens où c'est cet être qui a tendance à être caché par le langage, puisqu'on dit, pour nommer même ce qui se passe dans les 24 heures, on dit le jour. Autrement dit, il y a une prééminence linguistique du jour, qui épouse en fait le fait que les hommes vivent ou travaillent en principe en journée. Mais du coup, il y a aussi un intérêt de la nuit, c'est-à-dire que la nuit, c'est le moment d'exception. Quand on commence un récit en disant c'était tel jour, mais on ne précise pas l'heure, très bien, c'est quelque chose qu'on écoute, mais peut-être sans grand intérêt. Quand on commence un récit en disant c'était la nuit, alors cela suscite en général une forme d'intérêt plus grand, parce qu'on est d'emblée dans un régime qui est un régime de l'exception.
Et les gens sont beaux la nuit?
Les gens sont beaux la nuit, en tous les cas,
c'est
peut leur prêter.
C'est une citation d'un film qui est, c'est Alexandre.
La maman et la putain.
La maman et la putain de Jean Eustache.
Absolument, un très beau film où il explique que. On va l'entendre, je ne sais pas.
On va l'entendre. Écoutons.
Et puis vous sentez le parfum de Bondy. J'ai horreur de cette odeur. Vous êtes imprégné. Je vois que vous êtes bien amusé. Oh, mais ne me touchez pas, allez, vous l'avez.
Mais vous êtes ridicule.
Je me fous du ridicule. Moi, j'ai traîné dans les rues toute la nuit. J'espérais vous rencontrer. Si je vous avais vu, je vous aurais dit je vous aime. Je vous l'aurais dit devant cette fille, devant tout le monde, n'importe où. Je vous aurais dit je vous aime. Arrêtez ce cirque, vous allez nous foutre en l'air.
C'est un très beau film, hein, La maman et la putain de Eustache.
C'est un très beau film, oui, c'est un film qui sort de 68, hein, qui a été réalisé en 68, après 68, pardon, et 68 a été une période, je dirais, les événements de mai 68, riches en nuits de palabres, estudiantines ou ouvrières, très, très, très intéressantes. Alors, c'était pas dans l'extrait qu'on a entendu, mais à un moment, Alexandre, qui est joué par Jean-Pierre Léo, rompt avec sa compagne, qui, elle, vit le jour, parce que lui est toujours...
Ils peuvent pas s'entendre, voilà, c'est-à-dire que là, il y a un différent entre les deux.
Il y a un différent, le jour s'oppose à la nuit, elle vit le jour, pour des raisons d'ailleurs de travail, et lui, au fond, quand elle rentre se coucher, lui se sort. Et elle lui demande, parce que c'est aussi une clause de rupture, je dirais, donc de douleur, elle lui demande pourquoi il sort la nuit, pourquoi il est un noctambule, invétéré, je dirais. Et il répond, tu sais, les gens sont beaux la nuit. Alors évidemment, c'est une phrase qui justifie son appétence pour la nuit, mais qui apparaît contre-intuitive, pourquoi les gens seraient-ils beaux la nuit, plus que le jour, je veux dire, mais à laquelle je pense qu'il faut donner la signification suivante. Ce qui est beau dans la nuit, ce ne sont pas spécialement les choses, c'est le regard qui porte sur elle. C'est-à-dire, au fond, la forme d'indulgence dans une nuit heureuse, dans une nuit joyeuse, hein, évidemment, pas dans une nuit de physionomiste, qui fait que l'on accepte dans son regard, littéralement de son champ de vision, précisément parce qu'on voit un peu moins bien, on accepte des figures, des ébahissements. Évidemment, c'est lié aussi, en tout cas dans la vie d'Alexandre, à l'association entre la nuit, l'alcool, à une certaine forme, je dirais, de la fatigue aussi, qui fait qu'on est moins vigilant, donc on est moins aussi jugeant. Mais cette idée que les choses sont plus belles la nuit parce qu'elles sont moins, je dirais, jugées à l'aune de critères ou de réussite ou de performance, et pas seulement une idée, c'est parfois aussi une expérience.
Ah bah vous avez bien de la chance, Luc Gazinski, aussi, d'avoir choisi ce thème de réflexion que la nuit, pour le géographe, c'est génial. Si tous les gens sont beaux, la nuit.
La nuit révèle. Elle révèle l'homme, l'humain, disons. Elle révèle l'humain, elle révèle la ville aussi. Si on veut comprendre une ville, il suffit de la survoler de nuit. et on y voit les contrastes. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je pense que c'est une caricature du jour, d'une certaine façon. Si on veut comprendre une société, on passe notre temps à arpenter les villes, à essayer de les comprendre, à essayer de comprendre cette société de nuit. Mais d'une certaine façon, on est assez feignant. Parce que cette nuit caricature, elle nous montre. On voit beaucoup mieux les quand on est inclus dans la ville la nuit, on est très inclus. Quand on est exclu, vous le savez très bien, on est très exclu. Et la pire des exclusions, c'est de pas avoir un toit sur la tête. Donc voilà. Donc le géographe, il essaye de cartographier un peu où, quand, à quelle heure et qui se situe dans la ville. Et je vous livre aussi une exploration que j'ai jamais voulu poursuivre sur le mot nuit. Si vous le prenez nuit, en général, on dit que les hommes, les femmes, les humains dorment 7-8 heures.
De moins en moins, apparemment.
Alors 6h30 aujourd'hui, ouais, mais on disait ça. Et donc, nuit, c'est non 8. Night, c'est no 8. Nacht, c'est 9, 8. No, OT. Enfin, on pourrait le prendre dans différentes langues. Donc, je trouve que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Explorer la nuit et aller vers aussi cette question du beau et peut-être des fraternités. Quand on regarde les mobilisations nocturnes, je pense notamment au rond-point des Gilets jaunes, ouais, je pense absolument. À Nuit Debout, je pense à énormément maintenant de mobilisations qui prennent ce temps de la nuit comme autre chose, parce que le pouvoir
Madrid
est contrôlé.
Madrid ne dort jamais aussi.
Voilà,
le
pouvoir a toujours cherché à contrôler la nuit. D'ailleurs, pendant la Covid, j'ai été étonné de voir qu'on a accepté quelque chose qui pour moi était exotique ou du passé, c'est-à-dire le couvre-feu. On a accepté en France cette idée du couvre-feu avec le pouvoir qui a peur de quoi? De la nuit.
Et les lieux
qui étaient
ouverts la nuit ont été les premiers à fermer.
Alors c'est ceux qui ont eu la double peine. Ils étaient les premiers à fermer. Ils ont été les derniers à ouvrir et ça a accéléré la transformation de la nuit d'ailleurs.
La nuit échappe aux politiques d'une certaine manière, Michael Fossel?
La nuit échappe au regard du politique en partie et la nuit est en même temps le lieu que le pouvoir utilise. Il veut la réglementer mais il l'utilise aussi, je dirais, pour ses bases besogne. Hein. Dans l'Ancien Régime, par exemple, deux catégories de gens étaient systématiquement enterrés la nuit, les prostituées et les comédiens. Molière a été enterré la nuit parce qu'il s'agissait, au fond, de cacher au peuple ces professions qui étaient jugées, pour certaines d'entre elles le sont toujours, au fond, invisibles et devant le demeurer. Donc, évidemment, il faut beaucoup se méfier du rapport du pouvoir au jour. Si vous pensez à des nuits, car il y a des nuits, on a évoqué des nuits heureuses, des nuits tristes, mais il y a aussi des nuits, je dirais, quelque part sataniques. Si vous pensez, enfin en tout cas très négative, mauvaise, méchante, les nuits qui sont les nuits du parti nazi, hein, on pense aux cathédrales de lumière, des grandes fêtes nazies, cathédrales de lumière est la formule de Brasillach quand il va voir les festivités, si j'ose dire, de Nuremberg.
Je pense à la nuit de cristal.
La nuit de cristal, effectivement aussi. Mais c'est quoi les cathédrales de lumière? C'est effectivement, on voit que la nuit, donc ces manifestations avaient lieu la nuit, mais tout d'un coup, une lumière ou des lumières qui allaient toutes dans la direction du chef, évidemment, emprisonnait en fait la nuit. Donc la nuit, c'est à la fois un espace dont le pouvoir se méfie, mais qu'il veut domestiquer, apprivoiser et parfois même rendre, je dirais, à l'image de lui-même. Il y a des nuits qui sont d'abolition des privilèges, il y a des nuits de terreur. Mais le point important dans ces nuits de terreur, c'est qu'elles sont souvent liées à l'intrusion, d'une lumière qui est une lumière au sens strict agressive, c'est les lumières blanches, c'est aussi la lumière des néons qui dénature en réalité la nuit. Il y a la bonne lumière, celle qui, au fond, d'une certaine manière, vient des étoiles, c'est la lumière naturelle.
Il y a aussi le siècle des lumières, mais ça, on va en parler après.
Il y a aussi le siècle des lumières, il y a les lumières qui dénaturent, celles qu'on trouve aujourd'hui dans les endroits qui sont ouverts 24 heures sur 24, les stations-service, et parfois sur nos écrans aussi.
Oui, le gaz ainsi.
Oui, sur la politique, je reviendrai pas sur ce que Michael vient de développer, mais quand même des éléments intéressants. Une partie des textes un peu compliqués à l'Assemblée, au Sénat, on les passait de nuit. Hein, on les passait de nuit. Il y avait des spécialistes d'ailleurs. Il y en avait un qui avait été navigateur. D'ailleurs, je dirais pas qui. Ça, c'est le premier point sur la question du politique. Le politique fait la même chose aujourd'hui en fabriquant de l'événementiel, en fabriquant de l'événementiel urbain. On a vu un développement de cet événementiel-là et d'une certaine façon il rassemble urbi et orbi des populations, la ville et autour de quelque chose qui est peut-être pas un spectacle total mais qui peut être une forme d'étourdissement aussi de ce que peut proposer le politique. Et puis n'oublions pas qu'aujourd'hui, je sais pas si on peut en dire un mot là, on commence à parler de maire de nuit. dans les années 90, j'avais proposé que ce peuple de la nuit, parce qu'il y a 15% des salariés qui sont amenés à travailler la nuit, plus les non-salariés, ça commence à faire beaucoup de monde qui vit la nuit, parce qu'on parle de ceux qui dorment, ceux qui sont éveillés, ceux qui font la fête, mais il y a évidemment ceux qui travaillent. Et je me suis toujours posé la question d'une citoyenneté de nuit. On est citoyen, pas toujours et pas partout, de jour, mais la nuit, on ne l'est pas. Il y a un certain nombre de services qui ne sont pas ouverts pour toutes sortes de raisons. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On parle par exemple de continuité territoriale en France, beaucoup autour de l'idée de la République entre des îles et le continent, je vais le dire comme ça, mais on n'en parle pas entre le jour et la nuit. Si je suis obligé, si j'ai pas le choix de travailler la nuit et que je suis de nuit, éventuellement maintenant les collectivités ont fait un travail pour les transports de soirée, mais quand je rentre de mon travail le petit matin, il y a ni les cathédrales qui sont éclairées, ni les transports encore présents, je pars à 3h30 ou 4h du matin, mais on commence à réfléchir à des conseils de la nuit, on commence à réfléchir à des maires de nuit, donc la nuit commence à devenir... Enfin,
il y aura un maire de jour et un maire de nuit, remarquez, c'est pas mal. Hein,
mais on pourrait faire de l'intercommunalité.
Il faut d'ailleurs noter que probablement un des effets, on le remarque déjà, un des effets du réchauffement climatique dans nos contrées fera que la nuit, qui même si elle est trop chaude dans les périodes de canicule, sera un lieu certainement habité comme il l'est déjà davantage dans des pays méridionaux. Mais juste un mot sur la solidarité des êtres noctambules. Je ne peux pas ne pas parler, puisque nous sommes sur France Inter, de ce qui a constitué longtemps l'émission phare, si j'ose dire, de la nuit, animée par Macha Béranger. Elle avait une très belle formule pour parler de ses auditeurs, hein. Je le rappelle peut-être pour les plus jeunes, c'était une émission donc nocturne où les gens pouvaient appeler les sans-sommeil, c'est-à-dire ceux qui travaillaient la nuit ou ceux qui étaient insomniaques, ne pouvaient pas dormir, peut-être ceux qui rentraient aussi de fête, mais qui créaient une sorte de solidarité, de communauté, fondée d'ailleurs aussi, c'est de la radio. La radio, c'est la nuit, je dirais, parce que c'est le son précisément, hein. Ça n'est pas quelque chose que l'on peut voir, ça nous accompagne partout, ça peut nous accompagner, je dirais, au-delà de la différence du jour et de la nuit. Et Macha Béranger avait ce don qu'elle avait d'abord de sa voix, mais aussi de faire entendre le cliquetis de son briquet, on fumait à l'époque dans les studios, de ses bracelets, c'est-à-dire, au fond, de constituer comme ça une sorte de d'atmosphère qui n'est pas fondée sur la vision et qui, en tout cas, pour moi, je l'ai écouté à l'extrême fin, mais pour constituer une sorte de communauté de ceux qui n'avaient pas de sommeil pour des raisons souvent tristes, mais qui, de ce point de vue-là, se sentait aussi moins seul de ne pas être dévolu solitairement à la nuit.
Dans votre essai La nuit, Michael Fossel, vous évoquez un livre de Jacques Rancière, La nuit des prolétaires. Donc c'est une période qui est entre 1830 et 1870, et ça revient donc sur un épisode historique. On va écouter le philosophe Jacques Rancière.
Pourquoi la nuit ? Bon, parce que la nuit était évidemment un moment de rupture, un moment de rupture essentielle. Bon, normalement, bon, ben, un ouvrier, le jour, il travaille, et puis la nuit, il se repose, il refait ses forces, et puis le lendemain, ça repart, quoi. Et donc, j'ai appelé la nuit des prolétaires, ce travail qui s'intéressait aux efforts faits par un certain nombre de ces ouvriers pour justement ne pas dormir la nuit, c'est-à-dire pour conquérir sur la nuit du temps pour se réunir, du temps pour lire, pour écrire, pour réfléchir, pour écrire des journaux, pour écrire aussi éventuellement des poèmes ou toutes sortes de littérature. Et j'ai dit que bon, le noyau finalement du renversement du monde, c'est d'abord la capacité affirmée par ceux qui étaient enfermés dans une certaine condition, la capacité affirmée de se faire comme un corps, comme un esprit qui soit en écart par rapport à cette condition. Donc normalement, bon, bah il y a ceux qui ont du loisir. Bon, ceux qui travaillent pas, ceux qui sont pas soumis à la nécessité, ceux-là ont du loisir, ils peuvent penser, ils peuvent ne pas dormir la nuit s'ils le veulent. Et puis ces ouvriers qui en principe ne le peuvent pas, tout ça décide qu'ils le peuvent. Et c'est pour ça que, pour moi, cette espèce de conquête sur la nuit, c'était véritablement la racine de l'émancipation, à savoir que on change l'ordre du temps lui-même, quoi.
Jacques Rancière, donc, ça veut dire que, vous en parliez déjà tout à l'heure un petit peu, Luc Gassinski, il existe une nuit révolutionnaire. Là, c'était pas pour faire la révolution que ces ouvriers se... Oui, si quand même, vous
si, un aussi. Petit peu, parce que c'était les ouvriers saint-simoniens qui préparaient, alors ça a tout de même été très présent en 1830 et 1848, mm-hmm. C'est-à-dire, au fond, ce que Rancière explique là très bien, c'est que le travail, ils voulaient sortir de ce que, anachroniquement, on appellerait métro boulot dodo, c'est-à-dire que le moment, la nuit ne voulait pas en faire simplement le moment de la reconstitution de la force de travail pour pouvoir ensuite aller travailler le lendemain matin. Donc au fond, ils occupaient la nuit avec l'équivoque de cette occupation, c'est-à-dire qu'on voyait bien d'ailleurs aussi dans Nuit debout, hein, que Luc évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est à la fois des lieux de grande élaboration politique, on discute, on échange, on s'engueule, on lit, on étudie, mais aussi on boit, on fait la fête. Donc au fond, il y a une sorte de dimension, je dirais, à la fois festive, politique, de conscientisation, comme on aurait dit autrefois, de la nuit. Et surtout, c'est ce que montre très bien la Nuit des prolétaires de Rancières, ça part d'une fondamentale aspiration et même d'une exigence à ne pas être réduit au temps de travail. C'est-à-dire, les ouvriers voulaient plus d'un corps, en quelque sorte, ne pas simplement être le corps du travail, mais au fond, exiger et réaliser, puisque le plus simple en général, c'est de prendre ce qu'on ne vous donne pas, exiger qu'eux aussi aient le droit à une nuit alternative à celle que leur imposait le monde bourgeois de l'époque.
Et une aspiration à la liberté, hein, dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, aspiration à la liberté, et ça revient aussi sur la question de la nuit comme un refuge. Quand le pouvoir cherche à contrôler la société, le contre-pouvoir, on pense à l'Espagne de Franco, tout ce qui est né de l'Espagne de Franco était nocturne d'une certaine façon. La movida, elle est devenue aujourd'hui quelque chose de très commercial, économique et autre, mais c'est une dimension à mon avis qui est très très importante. Et cette dimension de la nuit, je me souviens des ronds-points des Gilets jaunes, j'y reviens, où il y avait ce brasero. Ce brasero qui maintenait l'hétérogénéité du rond-point, parce qu'on y faisait autre chose, il y avait quelque chose qui renvoyait au ciel, c'était assez étonnant. Il y avait je me souviens de Grenoble, rond-point de Crolles, il y avait cette voûte étoilée au-dessus, hein, par rapport à ta remarque de tout à l'heure. Et puis ce brasero, avec ses petites lucioles qui montaient jusqu'au ciel, et il se jouait quelque chose de ce que t'appelais peut-être une fraternité, mais qui se joue pas partout. Elle se jouait de façon condensée, avec l'idée que tu évoques dans ton livre, c'est l'idée aussi d'une éducation populaire. Je pense qu'il y a quelque chose d'apprenant dans ce temps-là, de lâcher prise, d'exigence, d'une forme de proximité dans des moments particuliers, mais pas tout le temps, parce que tout le temps, elle est plutôt quelque chose qui...
Les universités populaires sont toujours liées à ce qu'on appelle les cours du soir, c'est-à-dire au fond, après pour des gens qui travaillent, il y a ce temps qui leur est dévolu pour aussi se cultiver. Au fond, c'est une exigence, on pourrait dire au sens fort du terme et noble du terme, de loisir pour ceux dont la vie est essentiellement faite de labeur. Et évidemment, comme le labeur est pour l'essentiel des gens diurne, eh bien c'est sur la nuit qu'il est convoqué. Alors là, ce qui est intéressant aussi dans cette politique de la nuit, c'est que ça vient un petit peu contre cette image très proche, cette métaphore plutôt d'ailleurs, propre à la philosophie du siècle des Lumières.
Mais c'est quand même assez incroyable, le siècle des Lumières, et Diderot qui dit « soyez ténébreux ».
Absolument.
Alors, il y a quand même comme un paradoxe là.
Le siècle des Lumières, ça ne veut pas dire qu'il a lieu forcément le jour. La lumière, c'est précisément ce qui peut aussi s'intéresser à la nuit. D'ailleurs, un des grands écrivains des Lumières, j'y pensais quand Luc expliquait que lui, professionnellement, envisageait la nuit, donc avait rentré dans des gens qui travaillent la nuit. Un des grands auteurs des Lumières, c'est Restif de la Bretonne, au XVIIIe siècle.
D'ailleurs, dans votre essai.
Et il écrit un livre qui s'appelle Les Nuits de Paris. Et au départ, il l'écrit dans l'idée justement du siècle des Lumières, c'est-à-dire il y a toute une série de populations, des prostituées, des bandits, etc., qui vivent la nuit, et il faut absolument que l'État s'en occupe et s'en préoccupe. Donc au départ, il veut coloniser la nuit. Et puis, il explique, il raconte d'ailleurs, ce qui est mieux, dans son livre Les Nuits de Paris, comment du coup il va aller, il va enquêter en quelque sorte la nuit, à une époque où la nuit commence à être un peu illuminée, mais l'est très peu, et... Ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit, lui, l'homme des Lumières, l'homme qui veut qu'au fond on fasse la transparence partout, il se transforme petit à petit, dit-il, en hibou. Hein, il devient un homme hibou. C'est-à-dire qu'il est amené à une forme, pour le coup, de fraternité avec ceux que d'abord il prétend ramener sur le droit chemin. Donc au fond, c'est les meilleures lumières nocturnes, je dirais, que celles qui respectent aussi la logique de la nuit, qui n'est pas une logique de la transparence.
Vous êtes bien sur France Inter, vous écoutez L'Heure Philo, Michael Fossel et Luc Gazinski sont nos invités. Le premier est philosophe, le second géographe, et nous parlons, vous l'aurez compris, de la nuit.
Something you said the other night made me believe that I am falling into your arms. A new paradise, could it be? something you said. Now should we change, make an affair? I wouldn't want to spoil our friendship. How will we know? Simple kiss can be so telling. I care for you, and you care for me. Shouldn't we be perfect together? This kind of loving don't need no kissing.
Said, c'était Alani sur France Inter. La nuit, et ça on n'en a pas assez parlé, peut-être même pas du tout jusqu'à présent, c'est aussi le temps des excès, non ? Non, Michael Fossel, vous ne voulez pas en parler, vous avez peur que vos élèves, vos étudiants vous écoutent, c'est ça ?
Non, mais bon, ils le savent certainement mieux que moi, compte tenu de leur âge.
Bah d'accord, ils peuvent en
mais la nuit, oui, bah, c'est la période, c'est le temps, temps des excès. Enfin, il y a des excès du jour, hein, je veux dire, il y a des excès joyeux, en principe, les, c'est des excès. C'est aussi une temporalité qui, précisément parce qu'elle n'est pas, elle est moins habitée que celle des autres, permet de fêter, de faire l'amour, de même si c'est de la sexualité humaine. Fondamentalement, au fond, moi, j'aime pas trop associer une activité, y compris même le plaisir et la sexualité, à la nuit, parce que fondamentalement, ce qui est important dans la vie humaine, c'est que nous sommes des, comme nous sommes omnivores, d'une certaine manière, nous sommes aussi des êtres qui sont à la fois diurnes et nocturnes. Nous ne sommes pas condamnés à une seule régime de temporalité. Donc, ce qui est certainement le plus intéressant dans l'expérience humaine, c'est que nous pouvons, mais à chaque fois dans la modification des temporalités, des espaces, des lumières, bon, bah, faire l'amour aussi bien le jour que la nuit. Alors, ce n'est pas le même type d'acte. Ce qui est dangereux, au fond, c'est l'uniformisation. L'excès, si excès veut dire vivre toujours dans cet excès nocturne, y compris le jour, je suis pas sûr que ce soit plus, il n'y a pas de jugement moral, évidemment, dans ce que je dis là, c'est plus intéressant que de, c'est pas forcément plus intéressant que de, que d'avoir des nuits uniquement dévolues au sommeil.
Qu'en pensez-vous, monsieur le géographe Luc Biasati?
Le géographe, il a envie de dire un mot sur ces excès qui sont aussi des, évidemment, des transgressions, mais des rites. Je pense que la première fois qu'on découche, voilà, c'est important. Donc il y a beaucoup de rites comme ça.
Et la permission de minuit,
le premier rapport
de mon temps, on avait la permission de
mais
minuit.
Mais oui, on se transformait, paraît-il.
Mon brave monsieur. Bah oui.
On se transformait. Bah oui. Voilà, c'est permissions, le premier rapport à des substances diverses et variées, à des boissons diverses et variées, dans des rites qui sont accompagnés souvent. C'est très important. Donc si on veut blanchir la nuit, si on veut la transformer en non-jour d'une certaine façon et en non-nuit, dans une espèce de temps un peu particulier avec ces lumières blanches là, dont Michael parle très bien, il y a danger à ça. Donc à la fois l'ombre, les témoins, l'absence de témoins, c'est quelque chose qui est permis.
Alors
par...
si on veut l'absence de témoins, il ne faut pas aller à Las Vegas, par exemple, hein, parce que c'est la domestication intégrale de la nuit, là.
C'est la ville 24-24 dans tous ses excès. D'une certaine façon, comme Ibiza, on a spécialisé sur la Terre des spots comme ça, qui sont des choses qu'on doit regarder. Qu'on doit regarder sur ce qu'on veut peut-être pas, enfin ce qu'on veut faire de la nuit, parce que la question c'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble de la nuit, comment on veut l'habiter. Mais je voulais vous dire juste sur Las Vegas, qu'il y a un truc quand même intéressant à Las Vegas, c'est qu'il y a un cimetière de néons et d'enseignes. lumineuse. Donc voilà, il y a quelque chose de comme ça, du renversement.
Le ciel étoilé, il a décidément perdu de sa hauteur, hein, comme aurait dit Guy Debord. Le grand personnage de la métaphysique de la nuit, évidemment, c'est l'insomniaque. Marie Darrieussecq, elle a beaucoup parlé de ses insomnies, elle les a écrites dans son livre « Pas dormir ». Nous allons l'écouter, elle était sur France Inter en 2021.
Il me semble qu'il y a autant d'insomnies que d'insomniaques, mais on peut en voir des grands ensembles. Et dans mon cas, effectivement, je ne dors pas parce que j'ai l'impression qu'une catastrophe va arriver si je dors. J'ai l'impression d'être le pilote d'un avion qui va se crasher si je m'endors. C'est très très mauvais. Ça, d'un certain côté, c'est complètement mégalomane. Enfin, si je dors, le monde continue de tourner. Mais je n'arrive pas à m'en convaincre. Et je crois qu'il y a au moins une petite loupiote, une petite veilleuse qui veille les gens que j'aime. Si je m'endors, qu'est-ce qui va leur arriver? Les insomniaques se reconnaissent. Je pense, à 4 heures du matin, on est dans un état de veille qui n'est pas vraiment de la veille diurne. C'est une forme de vertige, de looping, de somnambulisme éveillé, où on ne pense pas droit, et en même temps, on s'égare dans des zones très proches du rêve, qui peuvent être cauchemardesques, et puis qui, parfois, dans des moments de grâce, peuvent apporter, il m'est arrivé d'écrire de temps en temps la nuit, mais c'est quand même très rare. En général, j'aimerais mieux dormir.
Bah, vous disiez, Michael Fossé, tout à l'heure, que vous... Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, parce que personne ne va aller vérifier, mais que vous avez plutôt l'habitude de travailler la nuit.
Oui, alors peut-être d'ailleurs aussi par une forme d'insomnie. L'insomnie dont parle Marie Darrieussecq, c'est celle de l'endormissement. Il y a des gens qui s'endorment vite et se réveillent ensuite continuellement dans la nuit. Bon, celle qu'elle évoque, je crois, là, c'est celle où la nuit, on ne trouve pas le sommeil, hein, ce qui suppose qu'on le cherche. Et précisément, d'ailleurs, dans la description qu'elle en fait, je crois que c'est assez juste, ça correspond à ce que j'ai pu en observer moi-même. C'est parce que, précisément, on ne quitte pas le moment, on ne s'abandonne pas à la nuit. Il y a toujours un témoin, une image. C'est un peu l'œil de Dieu qui est dans la tombe et qui regarde Caïn. Donc au fond, l'insomniaque, c'est celui qui, au fond, subit la nuit.
C'est intolérable pour Lévinas, par exemple.
Absolument.
L'insomnie, c'est quelque chose d'intolérable.
C'est l'Ilia, cette espèce de d'abord c'est la solitude et puis l'être qui s'impose à vous. Je dirais pas que l'insomniaque, d'une certaine manière, il est un nocturne. Il est plutôt quelqu'un qui, au fond, vit la nuit sous la forme de l'angoisse parce qu'il sait que le jour va revenir et qu'il faudra que son absence de sommeil soit, ou pour autant que c'est possible, cachée. Donc, en fait, il anticipe ce lever, ce jour qui va être un jour, avec le trace de la
une
souffrance,
forme de
les cernes,
sur
etc.
Sa souffrance.
Absolument.
C'est vrai. Moi, je trouve que cette idée de l'insomniaque comme quelqu'un qui est enfermé dans les figures de la nuit ou du nocturne, il y a cet insomniaque qui est enfermé. Et je voulais faire le lien avec le travail. N'oublions pas que le travail de nuit est souvent un travail qui finit par détraquer. Et dans la façon de détraquer les rythmes de vie, il y a la façon de détraquer le sommeil. Et donc, il y a un glissement qui se fait, qui est suivi, qui est analysé, du travailleur de nuit, choisi ou non au départ, vers des formes d'insomnie et derrière des difficultés, voire... voir la nuit totale derrière.
On évoquait Lévinas et l'insomnie, c'est par la lumière que les objets sont un monde, c'est-à-dire sont nous. C'est Lévinas qui écrit ça.
C'est Lévinas, oui, c'est-à-dire que l'insomniaque, c'est celui qui, justement, vit dans l'obscurité et subit cette obscurité, autrement dit, il n'y a pas de monde, puisqu'il n'y a pas de lumière, et là où il n'y a pas de monde, c'est-à-dire un cosmos, un être organisé, un milieu dans lequel je peux me repérer, eh bien, au fond, je subis dans l'angoisse pure, hein, de ne pas voir son espace, et d'être, d'une certaine manière, exclu, se sentir exclu du reste de l'univers. Il y a le peuple qui dort et il y a moi qui ne parviens pas à trouver le sommeil.
Merci à tous les deux, j'espère que vous dormirez bien cette nuit tout à l'heure. Michael Fossel, La nuit, vivre sans témoin, c'est publié aux éditions Autrement. Luc Gazinski, à la fin de l'année, il y a deux livres que vous signez qui vont paraître. Décoloniser la nuit, c'est aux éditions de l'Aube, et Nuit des Suds avec Abdellah Moussali aux éditions Rhythmos. Merci à tous les deux.
Merci.